Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Cécile Kuckermann, sénatrice de la Loire, conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, porte-parole du Parti communiste français. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes secrétaire générale de la coopérative des élus communistes et républicains qui a tenu son congrès à Montreuil il y a quelques jours. 350 élus qui veulent construire une nouvelle république laïque, sociale, écologique et démocratique. Vous vous êtes réunis avec ce mot d'ordre, nos territoires, des solutions pour la République. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette coopérative et quel sera son rôle dans les mois qui viennent?
Mais écoutez, tout d'abord, je crois que le premier rôle, c'est de permettre aux élus, quel que soit d'ailleurs leur mandat, que ce soit des élus municipaux, des maires, des conseillers départementaux, régionaux, parlementaires, de pouvoir aborder les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, mais aussi être force de proposition, pouvoir échanger, ceci avec un partage de valeurs au départ qui font que nous sommes, et nous l'affirmons, des élus progressistes, des élus qui considéreront justement que les territoires sont des solutions, en ce sens que aujourd'hui c'est dans les communes, les départements, les régions que vivent les services publics locaux, qu'ils sont développés. Je crois que nous l'avons vu, y compris à travers la crise sanitaire, qui n'est malheureusement pas terminée totalement, de la capacité des élus à maintenir, à créer le lien entre les habitants, mais aussi à apporter des réponses, et pour autant à une époque où de plus en plus les élus peuvent être critiqués un peu de toutes parts, mais où surtout le gouvernement, le choix du président de la République et de son gouvernement dans le précédent quinquennat comme dans celui qui débute, est de réduire toujours un peu plus les moyens financiers, les capacités à agir que peuvent avoir les élus locaux, justement pour répondre aux besoins de la population.
Alors justement, Cécile Kuckermann, lors de son premier mandat, Emmanuel Macron avait été accusé de ne pas écouter suffisamment les maires et les élus locaux. 6 mois après sa réélection, vous avez le sentiment que rien n'a changé? Ou bien est-ce qu'il s'appuie tout de même davantage sur les élus de terrain?
Bah écoutez, alors en tout cas, nous parlons, on ne peut pas dire qu'il s'appuie davantage sur les élus, puisque, y compris, on le voit sur un phénomène d'ailleurs qui touche les collectivités territoriales, mais j'ai envie de vous dire comme tout un chacun, qui est l'explosion par exemple du prix de l'énergie. Et on voit bien comment le Parlement, les associations d'élus ont interpellé le gouvernement en disant « attention ». Ça ne va pas passer, la capacité du règlement des factures va devenir de plus en plus compliquée. Comment aujourd'hui, aucune réponse suffisante à la hauteur des enjeux n'a été formulée, voire même celles qui ont pu être formulées, y compris au Sénat cet été, n'ont pas été prises en compte et ont été rejetées. Donc si vous voulez, bien évidemment, on en est à 6 mois, donc on peut améliorer les choses et tout peut encore changer. Mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a toujours une volonté qui, elle, demeure. Et en même temps, c'est la même majorité qui dirige aujourd'hui la France que celle d'hier, donc j'ai envie de vous dire, malheureusement sans surprise, qui est de considérer finalement les collectivités territoriales, les communes, les départements et les régions comme celles et ceux qui pourraient être les éponges qui absorbent toutes les difficultés, alors même qu'elles ont de moins en moins de moyens pour pouvoir le faire.
Alors, la ristourne du gouvernement sur le carburant va fortement diminuer ce mercredi. Au début de l'année prochaine, les prix de l'électricité et du gaz vont augmenter de 15%. Les Français voient aussi grimper les prix de l'alimentation. Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement pour contenir cette baisse du pouvoir d'achat? Que demandez-vous au sein du Parti communiste?
Mais écoutez, moi je pense que comme toujours dans une crise structurelle, vous l'avez dit, la difficulté sur le prix de l'alimentation qui augmente, la possibilité de se déplacer, celle pour se chauffer, donc il faut agir à plusieurs niveaux. Nous avons dit, dès le début de l'été, Il y en a qui ont profité et qui profitent de la situation. Il y a des super profits qui sont faits notamment par les grands groupes énergétiques et pétroliers. Donc cela, il faut les taxer plus que de raison pour contribuer et pour pouvoir redonner de l'air à tous les Français, à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. Et puis ensuite, nous, nous disons, il faut aujourd'hui poser la question non pas simplement de l'augmentation du SMIC, mais de l'augmentation des salaires pour redonner là aussi. Alors en plus, le gouvernement répond, si on augmente les salaires, on augmentera les prix. Donc ça, c'est leur réponse. Nous, nous disons, si nous augmentons les salaires, nous augmentons aussi la capacité à relancer, bien évidemment, la croissance. Et si, parallèlement, nous mettons sur l'énergie le retour à un tarif réglementé, eh bien, nous pouvons sécuriser, et ça, ça prend pas des années, ça peut se faire en quelques semaines, le budget des ménages, tout en maintenant, en assurant la capacité à bien vivre pour les femmes et les hommes dans notre pays.
Le CAC 40 a versé 57 milliards de dividendes aux actionnaires en 2021, un nouveau record. Vous avez le sentiment que taxer ces super profits pourrait aider le gouvernement à poursuivre le quoi qu'il en coûte? Sans la taxation de ces super profits, on ne s'en sortira pas?
Bah, écoutez, en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'abord, c'est indécent, les chiffres. Je crois que, voilà, pour tous ceux qui aujourd'hui doivent boucler des fins de mois de plus en plus tôt dans le mois, je pense que c'est indécent. Deuxièmement, oui, on ne s'en sortira pas autrement. Vous savez, il y a deux solutions pour équilibrer un budget. La première, c'est d'augmenter la recette. La deuxième, c'est de réduire les dépenses. Donc, si à un moment donné, on ne prend pas l'argent qui est produit, la richesse qui est produite là où elle est, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, soit on va continuer de voir se dégrader les services publics, les besoins à la population, soit l'on va demain demander à tout à chacun de contribuer à l'effort qui est fait aujourd'hui, par exemple sur la baisse du prix des carburants qui vient de s'arrêter ce jour. Mais cela n'a qu'un temps. Parce que pendant ce même temps où beaucoup se serrent la ceinture, eh bien, comme vous venez de le rappeler, quelques grandes entreprises, et pas toutes, mais quelques-unes, elles voient leurs bénéfices exploser et leur capacité à profiter finalement de la crise bien plus que la plupart des autres entreprises dans notre pays.
Cécile Cukierman, lundi, Fabien Roussel a expliqué sa méthode pour obtenir des concessions du pouvoir sur le pouvoir d'achat. D'abord la voie législative et si ça ne fonctionne pas, en passer par la rue. Est-ce que vous pensez que la crise liée à l'inflation peut aboutir à une forte mobilisation sociale comme il y a 4 ans au moment des Gilets jaunes?
D'abord, le gouvernement devrait s'en souvenir, puisque un certain nombre, nous faisions remonter la colère que nous entendions dans nos départements, notamment avec l'augmentation déjà à l'époque du prix de l'essence et un certain nombre de problématiques. Donc d'abord, il ne faut jamais vouloir étouffer la colère telle qu'elle s'exprime. Et ensuite, effectivement, vous avez la voie législative. Nous entendons, nous agissons, nous modifions. Et sinon, de toutes les façons, la colère continuera. Moi, la façon dont celle-ci explosera, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas voyante. Je préfère qu'elle s'exprime dans le cadre d'un mouvement social, parce que même si ce sont des difficultés individuelles, c'est en se mettant ensemble, en faisant du commun, que l'on permet d'avoir des débouchés et d'obtenir l'avancée de progrès sociaux qui vont satisfaire et améliorer la vie de tout le monde. Mais inévitablement, nous sommes aussi dans notre pays dans une situation où demain, il peut y avoir une étincelle, entre guillemets, qui met le feu aux poudres et un mouvement social, un mouvement de colère qui s'exprime, et certainement bien plus fortement que ne l'a été celui du mouvement des Gilets jaunes.
Cette étincelle, ça peut être par exemple la nouvelle loi sur le travail qui aura pour les chômeurs des conséquences sur leurs droits dès 2023, des droits modulés en fonction de la conjoncture économique sur le modèle canadien. C'est une loi que vous avez combattue. Est-ce que cela place les chômeurs dans une situation d'insécurité puisque la durée d'indemnisation dépendra finalement d'un coefficient qui sera lui variable ?
D'abord, effectivement, cette loi ne va pas améliorer la situation de celles et de ceux qui aujourd'hui sont des privés d'emploi et des demandeurs d'emploi. Et donc ça, c'est grave, parce que ce sont, là encore, ceux qui aujourd'hui sont les plus précaires, les plus en difficulté, qui vont être fragilisés alors qu'il y aurait besoin de les accompagner, y compris pour contribuer à ce qu'ils aient un travail et à développer par les différentes activités notre pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je crois que le principe d'une étincelle, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient. Malheureusement, tout peut être sujet. Vous savez, c'est à la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ça peut être ça, ça peut être la question du projet de loi que l'on nous annonce sur la question des retraites, mais ça peut être aussi de façon beaucoup plus concrète dans le quotidien des gens, une nouvelle flambée du prix de l'essence ou du prix des produits de première nécessité dans le secteur alimentaire. Donc je crois que une chose est certaine, c'est que celui qui pense qu'aujourd'hui tout va bien dans le pays, je crois qu'il se trompe. Mais surtout, il faut l'anticiper et il ne faut pas vouloir entretenir les gens dans la difficulté, parce que ce n'est jamais bon, d'abord, pour eux, par respect pour certains. Et puis parce que, moi j'en reviens toujours, nous sommes dans une situation profondément injuste, parce que ce n'est pas la crise pour tout le monde à l'heure où nous nous parlons.
Cécile Cukierman, la proposition de loi sur l'encadrement du recours au cabinet de conseil a été adoptée il y a 3 semaines au Sénat. Qu'est-ce qui va changer concrètement sur ce sujet si les députés adoptent le texte à leur tour ?
Mais écoutez, comme vous le dites, il faut d'abord que les députés adoptent le texte. Je souhaite et il me semble qu'il serait bon que l'Assemblée nationale inscrive maintenant au plus vite ce texte. Ce qui va changer, tout d'abord, c'est d'un recours systématique et donc très coûteux pour l'État aux cabinets privés extérieurs, mais qui ne sont pas simplement là pour faire du conseil et accompagner avec un regard extérieur comme on peut l'avoir parfois dans une entreprise, c'est-à-dire un regard un peu extérieur, un peu neutre ou nouveau qui vous aide à mieux vous organiser. Là, ce que nous avons dénoncé, ce que ma collègue Éliane Assassi, en tant que rapporteur de la commission d'enquête et du président de la commission d'enquête, Arnaud Bazin, ce qu'ils ont dénoncé, c'est-à-dire que c'est un recours systématique, mais en plus sur des cabinets qui aujourd'hui sont ceux qui font les propositions et mettent en œuvre les propositions de politique publique. Et nous l'avons vu au moment de la gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire que vous avez finalement une crise démocratique qui s'installe, puisque celles et ceux qui sont censés faire la politique et la mettre en œuvre, bien délèguent ce pouvoir qui leur a pourtant été confié par les citoyens à des cabinets privés, et quand je dis « des », quelques-uns, en fait. C'est-à-dire que vous avez un peu moins d'une dizaine de cabinets privés aujourd'hui qui est en capacité de faire la pluie et le beau temps dans ce pays.
Alors j'aimerais savoir, Cécile Cukierman, ce que vous avez pensé de l'arrivée de l'Ocean Viking au port de Toulon. On imagine que l'Italie, dirigée par Giorgia Meloni, va à nouveau refuser d'accueillir des navires humanitaires en Italie. Est-ce qu'il faut que la France accepte de recueillir toutes ces personnes migrantes et que ces personnes soient ensuite réparties dans les autres pays de l'Union européenne ?
Bon, tout d'abord, je crois que c'est un soulagement, parce que nous avons tous en tête les images qui ont été montrées des conditions, j'ose pas dire des conditions de vie, mais des conditions de survie de ces personnes dans le bateau pendant plusieurs semaines. Et donc il y avait une urgence humaine, une urgence humanitaire, à ce que le navire puisse accoster et que ces personnes puissent être prises en charge. La deuxième, c'est qu'à celles et ceux qui aujourd'hui nous disent que finalement le changement en Italie, c'est certes un choix politique contestable, mais que ce sont des gens avec qui on peut travailler, font la démonstration que le pouvoir en place en Italie n'est pas un pouvoir humaniste. Et ça, je crois que c'est important. Ensuite, plus largement sur la question de l'accueil, parce que nous savons que ces migrations vont augmenter, voire s'accélérer dans les années et les décennies qui viennent, y compris parce que ce qui va pousser les migrations demain, c'est le réchauffement climatique et la difficulté à vivre et les guerres qui vont en découler dans un certain nombre de régions du monde. Donc, personne ne pourra régler seul cette question-là. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse toujours preuve d'humanisme dans cette question-là. Il faut bien évidemment, mais pour les migrants eux-mêmes, éviter l'entassement sur les côtes. Il faut éviter de laisser traîner, de laisser se dégrader des situations dans des campements qui viseraient à sélectionner ceux qui peuvent rester ou ceux qui ne peuvent pas rester. Il y a, à l'échelle de l'Union européenne, à faire beaucoup plus et beaucoup mieux, mais pas simplement à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle des pays du continent européen. On le voit très bien avec la problématique Calais et du Royaume-Uni qui vient de sortir de l'Union européenne. Parce que oui, il faut que ces personnes-là puissent être accueillies dans des conditions dignes. Il faut une prise en charge, il faut les former, il faut les accompagner, il y a l'apprentissage de la langue, il y a la capacité à reprendre une activité professionnelle, parce que, je le redis, on a tendance à l'oublier, mais souvent, ce sont des gens, d'ailleurs, qui avaient une situation professionnelle dans le pays qu'ils ont fui, quelle qu'en soit la raison. Donc, ce sont des gens qui ont toute leur place pour pouvoir être accueillis. Encore faut-il qu'ils le soient dignement et qu'il n'y ait pas des zones où on les accueillerait, des zones où on les rejetterait. Et là, je crois que le continent européen, ce fameux vieux continent qui a tant souffert au XXe siècle, devrait se souvenir justement de son XXe siècle et faire preuve de beaucoup de bienveillance, mais aussi d'accompagnement pour répondre à l'urgence et puis pour agir à plus long terme et en tout cas maintenir la paix et le développement dans l'ensemble des pays de la planète plutôt que de n'être que dans des logiques rentables qui génèrent elles aussi des conflits et donc des départs des pays qui aujourd'hui sont en grave difficulté.
Merci Cécile Kuckermann. Je rappelle que vous êtes sénatrice de la Loire, conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes et porte-parole du PCF. Bonsoir.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.